On est le 2 juin 2026, 7h34. Mon nom c'est Marceau, je t'accompagne jusqu'à 10 ans en compagnie de Jeff Fortin et de Max Larouche. Beaucoup de gens pensent à toi ces temps-ci, Max.
C'est-à-dire?
Je vais te le dire, beaucoup d'auditeurs qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe avec toi, comment ça se passe, ta vie.
Très bien.
Fallait être là plus tôt pour comprendre tout ça. Des fois, ouvrir la radio plus tôt, vous avez accès à des histoires incroyables. Et celle de Max, encore une fois, ce matin. L'été, c'est 10 degrés sur Québec. Ça va être une belle journée. Alternance de soleil-nuages, maximum de 22. Ce soir, cette nuit, quelques nuages, minimum de 8. Demain, mercredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 26. C'est l'indice humidex qui va venir danser avec nous demain. Température ressentie demain possible de 28 degrés avec l'humidité. Minimum de 10 degrés en soirée, ciel dégagé. Jeudi, alternance de soleil-nuages avec un maximum de 25. Et vendredi, ce sera des nuages avec un maximum de 26.
D'une heure de pointe. Plutôt difficile ce matin, là, tout ce qui se dirigeait vers les ponts direction nord, c'est au gros rouge foncé actuellement. Sinon, R4 Sud, hauteur de la 40, il y a un ralentissement. Capitale-Ouest dans la normale, le ralentissement qui commence entre Seigneurial et Beau-Royal jusqu'à Laurentienne. Laurentienne-Sud entre le boulevard Le Bourgneuf et surtout, j'ai envie de dire, pour la bretelle, pour aller chercher Capitale-Ouest, c'est au rouge. Robert-Bourassa-Sud vers le boulevard Le Bourgneuf au ralenti. Toujours dans l'heure de pointe également pour ce qui est d'Henri 4 Sud entre Sainte-Geneviève et Chauveau-Ouest. Et plus haut, par l'autre bord, quand tu roules vers Shannon à partir de la route Léo-Major, ça bouche.
Politique fédérale, on jette les gants. Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur du Canada, réclame un débat d'urgence sur la récession technique du Canada. Et ce qu'on dit, c'est que la décision, normalement, de tenir un débat d'urgence revient au président de la Chambre des communes, mais celui-ci peut considérer les positions des différents partis pour réorienter son choix. Vous comprendrez que les libéraux vont certainement s'y opposer. On dit que le produit intérieur brut, donc le PIB réel du Canada, a diminué de 2 trimestres d'affilée, donc d'abord de 1 % entre octobre et décembre, puis de 0,1 % entre janvier et mars. C'est un phénomène qui est généralement classé dans la catégorie des récessions techniques par les économistes. Mais là, c'est challengé par d'autres experts qui pointent du doigt d'autres trucs. On en jase avec Marc-André Leclerc, qui est chroniqueur politique et vice-président chez National. Salut Marc-André.
Bon matin.
Est-ce que c'est une bonne stratégie de Pierre Poilievre actuellement d'attaquer Mark Carney sur des décisions sur la question économique, on va dire ça comme ça?
Oui, ben c'est parce que si M. Poilievre ne fait pas ça, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre?
À quoi il
présentement? Sert? Sinon, il sert à quoi? On dit souvent que dans notre système qu'on a hérité, là, parlementaire britannique, donc l'opposition est là pour s'opposer.
Ouais.
Dans ce cas-ci, oui, M. Poilievre a demandé là, un débat d'urgence qui a été refusé par le président de la Chambre des communes. Donc, c'est la prérogative du président. Cependant, moi, ça me fait un peu sourire. Là. On a beaucoup peur du mot en R, du mot récession. Et là, c'est rendu qu'on est rendu avec une définition, une récession technique. Lorsqu'il y a ces 2 mois consécutifs du recul du PIB, mais à partir de ce moment-là, on est en récession ou on ne l'est pas. Et ce qui me fait sourire également, c'est que quand c'était l'époque de Stephen Harper, et où on avait comme ça 2 mois là, consécutifs, ben, la Banque du Canada, avec M. Carney, ben, on disait qu'on était en récession. Là. Et ouais. Là, M. Carney, rendu premier ministre, se retrouve avec ça. Et là, il ne faut surtout pas dire le mot en R. Bon, la bonne nouvelle, semble-t-il, c'est que dans le trimestre actuel, on serait dans une croissance positive.
Ouais. Il y aurait des indices positifs actuellement, mais est-ce que c'est vrai qu'on est la seule économie du G7 en récession technique actuellement?
Oui, on est la seule économie du G7. C'est sûr que certains vont dire que c'est à cause des tarifs et à cause de tout ce qui se passe sur le globe. Cependant, faut juste se rappeler qu'il y a quelques mois, là, pour la première fois, M. Carney nous disait qu'avec les États-Unis, on avait le meilleur deal, entre guillemets, parce qu'on était le pays qui avait le moins des tarifs les moins élevés là, comparés à d'autres nations. C'est sûr que nous, nos exportations sont vraiment importantes de ce côté-là. Et là, qu'on s'estime sur récession, on est-tu en récession, on n'est-tu pas en récession, c'est-tu technique ou c'est pas technique, l'impact qu'on voit sur le terrain. Dans le secteur du meuble, par exemple, on a vu dans les derniers mois, dans les dernières semaines, des fermetures importantes là, dans ce secteur-là. D'autres secteurs comme l'aluminium, l'acier, également vivent des moments difficiles ici au Québec, ici au Canada. Donc, on a beau s'estimer à savoir si c'est-tu technique, pas technique, il reste néanmoins qu'il y a des conséquences sur le terrain et idéalement, il faut faudra qu'on puisse tourner la page à ça. Mais le problème du Canada, les gars, c'est que ça fait des années où les capitaux étrangers ne viennent plus ici. Quand on regarde les graphiques, c'est il y a vraiment une date précise, 2015, l'arrivée de Justin Trudeau, certaines politiques en place. Les investisseurs étrangers ne pensent pas qu'on est capable de construire des projets de grande envergure en sol canadien. Et ce qui fait en sorte, c'est pour ça que M. Carney, ça fait un an, qui crie haut et fort, qui met un bureau des grands projets, qui essaie de démontrer qu'on peut encore bâtir ici en sol canadien. Là.
Mais est-ce que, parce que pendant des années, je te dirais au début des années 2000, là, on parlait souvent de paradis fiscaux, mais si les paradis fiscaux existent, c'est-tu parce que les enfers fiscaux existent? est-ce qu'actuellement, au Canada, on est dans un enfer fiscal, puis on est pogné avec des syndicats dans l'est du pays? C'est-tu ça qui rebute peut-être les entreprises extérieures à venir chez nous? On va-tu se poser la question à un moment donné?
Ben oui, c'est sûr, il faut se poser la question, qu'est-ce qui empêche des investisseurs européens ou peu importe de venir ici, d'investir leurs capitaux et des capitaux dans des projets des fois qui sont un peu plus risqués. C'est pour ça que M. Carney a mis en place le capital, une espèce de fonds souverain qui n'est pas un fonds souverain pour essayer justement de lever des capitaux. On va voir comment cette bibite-là s'organise, mais comment on peut injecter des capitaux dans les différents projets présentement qui ont des difficultés. Là.
Et est-ce que c'est pour ça qu'on est obligé de débloquer des fois des milliards et des milliards pour des entreprises qui viennent de l'extérieur pour leur plaire?
Oui, mais on l'a vu dans le cas classique que tout le monde connaît, c'est Northvolt. Parce que c'est vrai que le Québec, par exemple, sur Northvolt, a pris un pari important. Le fédéral a pris un pari, mais différemment, parce que la façon de monter les ententes et les contraintes, le provincial et le fédéral sont bien différents pour déjà avoir joué là-dedans sur d'autres dossiers, pas sur Northvolt, c'est zéro de main impliqué là-dedans. Mais ce qu'on a vu avec Northvolt, c'est que si on n'était pas généreux en termes d'intervention gouvernementale, on aurait d'autres pays auraient donné des avantages. Quand une industrie se pose la question de faire une usine, là, souvent ces compagnies-là, des compagnies internationales, ils ont 3-4 options sur la table. Fait que c'est sûr qu'ils vont s'asseoir et elles vont regarder ce que les pays donnent en termes d'initiative. Fait que c'est sûr que dès qu'un pays est généreux, ben les autres embarquent là-dedans. Le problème, c'est plus un problème mondial que juste ici au Canada. C'est que si le Brésil ou l'Allemagne ou la France ou les États-Unis sont généreux pour les attirer, ces entreprises-là, ben, tu n'as pas le choix d'embarquer dans le jeu. Là.
Et parfois de perdre. Max?
Parfois.
Le financement du fédéral pour le projet de tramway de Québec qui va passer officiellement aujourd'hui à 2,75 milliards, qu'on ne s'approche pas du 40% demandé par Québec. On s'en approche, mais on ne l'atteint pas. Là, on est à peu près 36%. L'annonce va se faire à Longueuil par Marc Carney et Christine Fréchette parce que ça ne comprend pas seulement le tramway de Québec. Là, c'est tout ce qui est le nouveau fonds pour le transport en commun du Canada. Là, de ce qu'on comprend, Québec pourrait décider de prendre une partie plus importante que le 2,75 milliards, puis le faire passer, puis le faire entrer, dans le fond, dans ce qui est le financement fédéral pour aller chercher le 40% au total.
Puis il y a plein de choses là-dedans, Marc-André. Ouais. Je vais commencer par Québec. Est-ce qu'on est encore la capitale nationale?
On se le demande. Pourtant, c'est inscrit dans une loi.
Ouais. Que c'est les grandes rencontres.
Les grandes rencontres. Là, on fait ça encore une fois à Longueuil. Bon, là, on va dire à Longueuil, parce que oui, on va parler du tramway, puis ici à Québec, ce qui nous intéresse, c'est le tramway, mais il y a d'autres ententes qui touchent le logement, tout ça, là, parce que l'autre fonds, là, il y a deux fonds, là, les deux fonds principaux qu'on a des ententes, c'est le transport en commun, puis l'autre, c'est le fonds pour bâtir des collectivités fortes. Donc, dans l'autre fond, là, tu peux quasiment financer n'importe quoi là, en termes d'infrastructure. Donc, à partir de ce moment-là, c'est sûr que ça touche plus ça, mais il me semble que Mme Fréchette et M. Carney, qui sont en sol québécois, que tu fasses une entente avec sur plusieurs fonds, il me semble que tu fais ça à Québec. Il me semble que ça aurait pu être fait à Québec. Surtout, ce qui va retenir l'attention, c'est le tramway. Bon, sur le fameux tramway, bon, là, on nous dit, effectivement, on arrive à 36 % parce que le nouveau montant sur les 7,6 milliards, on arrive à 36. Cependant, au fédéral, ce qu'on nous dit ce matin, c'est que non, on arrive à 40 parce que dans le fond, c'est 40 % des dépenses admissibles. Donc, je vous explique. Dans tout projet, okay, que ce soit le tramway ou d'autres projets d'usine ou peu importe, dans les grilles du gouvernement, peu importe les paliers, il y a tout le temps des dépenses qui sont admissibles et des dépenses qui sont non admissibles. Donc, dans ce cas-ci, au fédéral, on va dire aujourd'hui, on a atteint 40 % parce que nous, du 7,6 milliards, on dit qu'il y a des dépenses admissibles en termes de 6,8. Et là, dans le fond, si on fait la règle de 3, le 2,75 qu'on va donner sur 6,8, ça donne 40 %. Le problème ici, c'est que qui croit que vraiment le tramway va coûter 7,6 milliards?
Ben personne, parce que le nouveau coût, on va l'avoir en 2027.
Exactement. C'est CDPQ Infra qui nous a dit qu'au printemps 2027, on arriverait avec le coût. Cependant, quand je regarde ce qui s'est fait avec le REM, Marc-André, on est arrivé avec un coût en 2018 à 7 milliards. On a fini en 2024 à 9,5 milliards parce que, ben beau certifier un coût en 2018, mais tu le sais, comme moi, les coûts de construction augmentent d'année en année.
Oui. Moi, hier, j'étais là, à Montréal où Mme Fréchette était devant là, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. J'étais là, puis je parlais avec un représentant d'une grande, tu sais, d'un gros joueur, une grande entreprise, puis il me parlait d'un projet qu'ils sont en train de travailler, puis il me disait que les coûts de construction entre 2023 et aujourd'hui, c'est 40 % de plus. Un projet qui ont démarré. Fait, si on applique ça, bon, est-ce que ça va être 40 % pour le tramway? Ça dépend toujours de la technologie, des matériaux que tu as besoin.
Ben, la rumeur qui circule à Québec, là, dans les méchantes radios de Québec, on est autour de 13 milliards.
Ouais, c'est ça. Fait que, là, ça va être un autre problème, là, parce que là, on a bien beau dire, puis jouer sur les chiffres, dire que c'est des dépenses non admissibles qu'on a calculées, puis on est à 2,75. Mais là, dans le fond, on est en train de boucler un financement pour 7,6 milliards. Donc, si on est rendu à 15, à 12, 10, 12, ben là, on fait quoi? Comment? Bon, fait qu'il faut pouvoir réinjecter des fonds, là, parce que là, on les voit ici à Québec, là, tu sais, les travaux avancent, puis on veut avancer. C'est quand même spécial, tu sais. Puis moi, je pense que le débat, là, sur le tramway, il est comme, on l'a fait, refait et refait, là. Clairement, ce projet-là, les gens le veulent, là. Je veux dire, c'est pas là, ici, c'est pas une opinion personnelle nécessairement. C'est juste il y a un constat dans les dernières élections que les gens, on a fait un débat sur le tramway, ils veulent qu'on aille de l'avant.
Ben, c'est ce qu'on dit, quand... parce qu'on essaie de faire preuve de résilience. Là, quand on est, moi, j'étais pour un système de transport en commun, mais je trouvais que le tramway, je trouvais ça totalement anormal qu'au niveau du kilomètre linéaire, on était le tramway le plus cher du monde entier. Mais il y a juste moi à Québec qui s'inquiète de ça, parce qu'il n'y a personne qui parle de ça.
Je pense pas que tu es le seul, Yannick.
Non, mais il y a juste moi qui en parle. Ça n'a pas de sens, Marc-André, qu'on est ici à Québec. Là, on n'est pas à Monaco, sacrament. Là, on est à Québec. Là. On va avoir le tramway le plus cher du monde entier, du kilomètre linéaire. Ça, il devrait crier ça tous les jours à l'Assemblée nationale, mais malheureusement, ça ne fait pas, peut-être pas.
Non, mais tout le monde, présentement, il y a comme au niveau dans la classe politique, il y a comme une espèce de consensus. À part, oui, quelques formations politiques qui sont contre, mais la majorité est pour.
C'est ça. Mais ma résilience vient du fait qu'à un moment donné, il faut que tu passes à d'autres choses. Puis les gens ont voté pour un maire qui était pro-tramway.
Exact.
Puis c'était pas le seul paramètre, là. C'était pas. Le seul paramètre pour lequel les gens ont voté pour le maire Marchand, mais on se dit, OK, on le fait.
Ouais.
Mais le taux d'approbation pour le tramway est encore à 35-40%, Marc-André. Il n'est pas à 50, il n'est pas à 60, il n'est pas à 70%. Puis imagine-toi, lorsqu'on nous annoncera en 2027 que ça va passer à 10 milliards ou 13 milliards, à quel point ça va descendre encore plus. Mais tu sais, la stratégie, on la voit, là, ils dépensent le plus d'argent possible pour dire « Hey, on a tellement mis d'argent là-dedans qu'on ne peut pas revenir. »
On peut pas reculer.
On a déjà joué dans ce film-là. Le Mexique, ça semble bien aller au niveau des négociations avec la CEM, avec les États-Unis. Par contre, il semble y avoir un petit retard au niveau des négociations avec les États-Unis et le gouvernement de Mark Carney, le gouvernement libéral. Là, Dominique Leblanc s'en va là. Est-ce qu'il va sauver les meubles, Dominique Leblanc? Est-ce qu'il va tenter de redorer le blason de Mark Carney, qui semble pas être un des préférés de la Maison-Blanche?
Oui, ben là, puis M. Carney qui a essayé hein, quand même dans les derniers jours. La semaine passée, il était du côté de New York, il a fait un discours là-bas. Puis il a comme joué la carte, on est un allié des États-Unis, puis on va vous aider là, à être « great again », donc en reprenant l'expression de Donald Trump. Bon, Monsieur Leblanc, il n'a pas le choix. C'est lui l'émissaire canadien, c'est lui qui est responsable du dossier. Il n'a pas le choix comme ministre, comme membre du cabinet fédéral d'aller à Washington, rencontrer l'entourage de Donald Trump et essayer de débloquer quelque chose. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que bon, il y a une date limite et une échéancier effectivement le 1er juillet, mais le 2 juillet, là, la Terre va continuer de tourner, le soleil va se lever sur la capitale nationale. Donc, c'est juste qu'il y a un mécanisme qui était là dans l'entente. Fait que là, on va être plus dans une espèce de renouvellement sur une base annuelle que de renouveler l'ensemble de l'entente pour plusieurs années. Donc, on est pris dans ce contexte-là. Mais c'est sûr que M. Carney, il sait là, qu'il n'a pas le choix d'arriver à un nouvel accord. Mais est-ce que ça peut exister dans le monde de Donald Trump, un nouvel accord sans tarif pour le Canada? Ça, c'est pas clair. Là. Et même, c'est plutôt l'inverse. Là. Donc, c'est là le problème pour M. Carney. S'il va vers une nouvelle entente, puis on reste encore avec des tarifs, même si la personne devant toi s'appelle Donald Trump, puis qu'on sait qu'il est un négociateur difficile, puis imprévisible et tous les défauts du monde, selon plusieurs, mais il reste néanmoins que ça ne sera pas totalement un succès là, pour M. Carney. Donc, c'est pour ça qu'on joue la stratégie un peu de l'horloge, en disant on est mieux de prendre notre temps. Que d'essayer de signer quelque chose à la va-vite, mais qui restera encore avec des tarifs sur plusieurs produits canadiens.
À suivre, mon ami. Je te souhaite de passer un super de beau mardi, puis on se reparle dans les prochains jours.
Merci. Bye-bye.
Au revoir. Salut. Bye-bye. Marc-André Leclerc, chroniqueur politique et vice-président chez National. Hey, on en parlait, là, entre Québec et Saguenay, on a fait une autoroute, là. Ça a coûté un milliard. Entre Québec et Saguenay, ça a coûté 1 milliard. On a coupé des arbres, on a dynamité pendant des années. Ça a coûté 1 milliard. Là, le tramway, ça va coûter entre 10 et 13 milliards.
Excuse-moi, mais c'est un raccourci intellectuel. Là, de.
Non, mais quand tu compares les projets...
Ouais, mais c'est une autoroute, c'est un tramway, tu peux pas comparer ça.
Ouais, t'as peu, là. Non, t'as peu. On a fait du dynamitage, on a creusé. Il y a des hommes qui ont travaillé là-dessus, des milliers de personnes.
Non, mais il y en a qui ne peuvent pas comparer un système de transport en commun
avec une
autoroute.
Au niveau de l'urbanisme, l'architecture, patati patata. Mais là, on est rendu dans des dépassements de coûts épouvantables.
Ouais, mais là, ton 13-15 milliards, là, tu sais.
Faut-tu le comparer avec d'autres villes qui ont des tramways?
Ouais, mais tu sais, ton 13-15 milliards vient de où? Il vient de quelle étude? Il vient de où?
Pour l'instant, il vient de ce qu'on entend à la ville de Québec, puis de ce qu'on entend chez les politiciens. T'as les divers groupes d'opposition qui en ont parlé.
Ouais, mais ils ont quelle étude pour dire que ça va être 13 à 15 milliards?
T'as quelqu'un au Parti conservateur du Canada qui en a parlé.
Il y a quelle étude?
Mais normalement, pour moi, que là, on est dans le 7,5.
Moi, je suis moi.
Puis 2036,
on est à 7,6. Si on regarde ce que la Caisse de dépôt a fait avec le REM, c'était 7 milliards, c'est devenu 9,5.
En 2018.
Je t'ai dit jusqu'à présent, je suis plus à l'aise de dire on va peut-être arriver aux alentours de 10 milliards que ton 13-15.
Si on se fait à 2018, on est rendu en 2026, là.
Oui, c'est ça, mais si on prend le comparatif entre 2018 et 2024, le projet a augmenté de 2,5 milliards.
Fait qu'on se dit, plus proche du 10, mais entre 10 et 13.
Bien, plus proche du 10. Selon moi, si on se fie à ça, tu sais, je me dis entre 2026-2033, c'est le même échéancier qu'entre 2018-2024, même que les coûts de construction ont vraiment explosé durant la COVID. Alors, c'est pour ça, si je me garde une marge de manœuvre, je vais te dire 10 milliards.
L'idéal, c'est que ce soit autour du 5.
Ben oui, ça serait l'idéal. Mais ça arrivera
ça
pas.
Ça n'arrivera jamais. Non. 7,52 sur la route.
L'heure de pointe qui se poursuit en quatre sud entre Sainte-Geneviève et Chauveau-Ouest, toujours au ralenti. Par l'autre bord, vers Shannon, du ralentissement aussi. Capitale-Ouest avant Bourrage, que Laurentienne toujours. Robert-Brossard-Sud vers le boulevard Le Bourgneuf. 40 Est entre Duplessis-Henri IV. En quatre sud, hauteur de la 40. Secteur des ponts. Là, clairement, il se passe quelque chose. Oui, accident. Sortie du pont Pierre-Laporte.
Accident Henri IV Nord, hauteur Hochelaga. Voie de gauche bloquée, congestionnée jusqu'au pont.
Exact. Puis même là, évidemment, ça va fouler jusque ça arrive sud, là, fait que, ouais, non, ça allait déjà pas super bien, secteur des ponts. Là, ça s'en vient assez terrible, merci. Fait que, on va espérer que cet accident-là se règle vite. Sinon, la 20 dans les deux directions, hauteur Taniata, des ralentissements.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la circulation,